Neptune FM sur la côte vendéenne. Neptune FM. Il est 21h. Neptune FM. Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de tout plein de mangas. Alors, on aura la chronique du volume 2 de Hippo, la chronique du volume 2 de Fullmetal Alchemist, on aura aussi la chronique du volume 4 de Cosplay Animal. On aura un point sur les sorties mangas de la semaine, il n'y en a pas beaucoup, c'est l'été, donc forcément, il va y avoir un peu moins de sorties. On aura ensuite la présentation du manga Derrière le ciel gris, la présentation de Infection et la chronique du volume 5 de Innocent. Et on aura enfin pour terminer une petite news musicale concernant une compilation qui est sortie il n'y a pas très longtemps pour Sisso. Voilà, alors on va commencer avec la première chanson de l'émission, c'est Link de Link Toasté Siguré et on viendra juste après pour parler du volume 2 de Hippo.
Thank you.
c'était Ling Toasté Sigure avec la chanson Ling. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Hippo. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action qui a été écrit par Morikawa George et prépublié dans le Shukan Shonen Magazine. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total, tenez-vous bien, de 128 volumes. La série étant toujours en cours, oui. Et la version française est parue aux éditions Kurokawa avec pour le moment 112 volumes de sortie, dont 30 qui terminent cette première saison. Donc le volume 2 de la saison 1 est paru le 13 septembre 2017. 2007. Au prix de 6,05 €. Le résumé de ce tome, le gong du match retour d'Hippo contre Miyata, son premier rival, vient de sonner. Hippo doit affronter sans faiblir les terribles contres et l'incroyable jeu de jambes de son adversaire. Ce sera l'occasion de récolter les fruits du terrible entraînement imposé par le président. Motivé à l'idée de prendre sa revanche sur Miyata, notre jeune Hippo va se dépasser dans ce second tome et suivre un entraînement intense et rigoureux sous la surveillance de Genji Kamogawa, le vieux dirigeant du club de boxe qui a repéré le potentiel de notre héros. Hippo va donc découvrir, en même temps que le lecteur, la rudesse d'une préparation sportive d'avant-match qui, dans son cas, va se caractériser par une amélioration du souffle grâce à la pratique de la course et un renforcement musculaire pour encaisser les punches de Miyata. Une fois de plus, Hippo nous montre une certaine détermination en endurant de bonne grâce cet entraînement difficile. Par la suite, nous allons enfin assister au duel tant attendu. Ce sont deux boxeurs au style différent qui vont s'opposer. Hippo qui peut compter sur sa force et qui se manifeste par des frappes très dures, tandis que Miyata mise sur sa rapidité et des contres décisifs. Après son entraînement, Hippo a bien évidemment beaucoup progressé et va donner du fil à retordre à Miyata qui va devoir aller au bout de lui-même pour espérer gagner ce combat. Qui en sortira vainqueur, ce sera à vous de le découvrir. Néanmoins, il convient de souligner que ce match sera de qualité du début jusqu'à la fin, notamment grâce à la rigueur graphique de Morikawa, qui se surpasse lorsqu'il s'agit de dessiner des boxeurs en pleine action. Enfin, c'est l'examen pour devenir pro qui va accaparer notre héros dans les dernières pages de ce tome. L'auteur en profitera pour introduire de nouveaux enjeux et personnages, en nous présentant notamment un boxeur aussi doué qu'antipathique, qui deviendra sans doute un adversaire coriace pour Hippo. Dans ce second tome, la série va prendre son rythme de croisière, l'auteur va résoudre les intrigues entamées dans le premier opus et en introduire de nouvelles. Hippo est toujours aussi attachant et semble promis à un bel avenir dans la boxe, même si des rivaux sont déjà là pour lui barrer la route. Voilà, donc Hippo a retrouvé aux éditions Kurokawa, on va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Shinsekai de Liraizo et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de Fullmetal Alchemist.
Yeah.
C'était Lira Izo avec la chanson Shinsekai. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Fullmetal Alchemist. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, drame, mystère, surnaturel, qui a été écrit par Arakawa Hiromu, traduit par Fabien Vautrin et Okazaki Maiko, et prépublié dans le shonen Gangan. La version japonaise est parue aux éditions Square Enix, avec un total de 27 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Kurokawa, avec également 27 tomes. Donc ce volume 2 est sorti le 8 septembre 2005 au prix de 6,60€. Le résumé de ce tome, alors qu'ils viennent tout juste d'arriver à East City, Ed exige de rencontrer un alchimiste d'état spécialisé en biophysique. Le colonel Mustang lui présente alors Shotoker et sa petite fille Nina. Rapidement, les deux frères vont se lier à la fillette dont ils comprennent la solitude. En effet, la mère de Nina est partie et son père travaille sans relâche. C'est en tout cas ce que prétend ce dernier, mais est-ce la vérité ? Donc après un premier tome plutôt tranquille qui servait essentiellement à présenter les garçons et leur situation difficile, on rentre ici très vite dans le vif du sujet. Beaucoup de choses nous sont dévoilées, le contexte politique et militaire du pays notamment. Avec le personnage de Scar, ce tome nous permet de mieux comprendre la géographie et l'histoire d'Amestris, même si l'ensemble est pour le moment très survolé et un peu confus. Au milieu de ce chaos qui se propage, les homonculus Lust et Gluttony, rejoints par Envy, jouent leur rôle de leur côté en préparant le terrain pour un futur sacrifice. Ce tome développe aussi les façons de faire de l'alchimie. Si Al se sert de cercles de transmutation dessinés, Ed, lui, les forme directement avec le mouvement de ses mains. Quant à Scar, sa synthèse semble bloquée au second stade. Nous avons également le droit à beaucoup de bagarres, mais on n'en oublie pas pour autant l'humour avec ce pauvre flemme alchimiste qui se sent bien impuissant en ne pouvant pas utiliser ses pouvoirs sous la pluie, en plus de l'introduction du personnage d'Alex Louis Armstrong, alchimiste aux bras puissants. En ne perdant pas trop de temps, ce volume embarque directement dans l'action et montre que l'histoire est énorme avec de nombreuses ramifications. Voilà, donc Fullmetal Alchemist à retrouver aux éditions Kurokawa. On va s'écouter tout de suite le deuxième opening de l'anime Fullmetal Alchemist, c'est Ready Steady Go de l'Arc-en-Ciel. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 4 de Cosplay Animal. Donc c'était l'arc-en-ciel avec la chanson Ready Steady Go qui a servi de deuxième opening pour l'animé Full Metal Alchemist. On passe maintenant à la chronique du volume 4 de Cosplay Animal. Donc je rappelle que c'est un shoujo de genre comédie, ecchi, romance qui a été écrit par Sako Watari et prépublié dans le dessert. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 14 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Kurokawa avec également 14 tomes de sortie. Ce volume 4 est paru le 10 mai 2012 au prix de 7€. Donc le résumé de ce tome, Rika a embrassé le meilleur ami de son copain. La voilà maintenant avec un secret bien lourd à porter. Pourtant, Arata n'est-il pas censé aimer Hajime? Alors pourquoi a-t-il fait ça? Rika est bouleversée par ce baiser volé. Quant à Arata, est-il enfin décidé à passer à l'action? En se rendant à l'improviste chez Hajime pour lui faire une surprise, Rika le voit s'écrouler contre elle à cause d'une forte fièvre. Malade, le blondinet veut pourtant aller à son travail, mais c'est sans compter sa copine qui décide d'aller le remplacer le temps d'une journée. La voici donc en train de travailler en compagnie de ceux qui en ont fait leur proie. Donc évidemment, notre héroïne n'a toujours pas totalement capté qu'elle intéresse le patron et Arata. Le premier reste en retrait, en se contentant de véhiculer toujours les mêmes clichés horripilants sur les homosexuels, à savoir qu'ils sont adeptes des travestissements à deux balles et qu'ils font souvent des pauses et sous-entendus graveleux. Mais Arata, lui, semble vouloir passer à la vitesse supérieure, surprenant Rika en l'embrassant sans lui laisser le choix. Troublée, notre héroïne se pose alors des questions. Mais ne vous en faites pas, elle ne comprend toujours pas les sentiments qui pourraient se cacher derrière ce baiser volé. En fait, passé quelques pages, elle cherche à peine à comprendre et préfère cacher la vérité à Hajime et faire de ce baiser contre son gré un secret. Mais c'est mal connaître Arata qui va lui-même dévoiler la vérité à Hajime. La situation risque fort de s'envenimer entre les deux amis, une rivalité amoureuse risque de naître, c'est du moins ce qu'on se dit avant qu'Hajime ne roule une pelle à Arata. Voilà, voilà. Bon, il y a une explication derrière ce geste, mais quand même, la réaction est assez surprenante. Par la suite, la question de la rivalité peine cruellement à décoller, et il faudra attendre les toutes dernières pages du tome pour avoir droit à un rebondissement là-dessus. Entre-temps, Watari Sako s'applique plutôt à faire entrer en scène un nouveau personnage, Senri, grand frère d'Arata, qui fait une arrivée sans queue ni tête. Ce nouveau venu, horripilant dans son côté dragueur à deux balles, a néanmoins le mérite d'apporter un peu plus de consistance autour d'Arata, décidément le personnage le plus intéressant de la série. Cela dit, il est franchement dommage que les informations autour de sa famille et du retour de Senri soient si bancales, abordées par bribes par-ci par-là, sans vraie contextualisation. Ce qui reste donc très superficielle. La mangaka se fait aussi un plaisir de remettre sur le devant de la scène le sujet du cosplay via un concours de déguisement pendant la fête du lycée. Le passage flirte entre le n'importe quoi et l'humour et a en tout cas le mérite d'aboutir pour les toutes dernières pages à un rebondissement à peu près potable, même si avant d'en arriver là, on se pose des questions sur le côté long à la détente de tous les personnages. Ce qui fait aussi plaisir, c'est l'aspect un peu moins putassier de l'ensemble. Donc bien sûr, il y a toujours des éléments horripilants, mais globalement, tout ça reste en second plan. Quant à Rika, chose incroyable, elle montre un peu de caractère à un moment, en milieu de volume, le temps de deux pages, sinon le reste du temps, elle reste la cruche qu'elle a toujours été. Et de nouveaux exemples sont là pour nous faire prendre la tête entre nos mains. Si le volume est moins putassier et tente de développer le personnage d'Arata, il est dommage que ce fameux focus soit sur le brin soit si bancal, que certaines réactions soient toujours aussi insupportables et que le tout peine autant à décoller avant les dernières pages du tome. Il y a du mieux, mais on est encore loin de tenir une lecture vraiment digne d'intérêt. Voilà, Cosplay Animal à retrouver en 14 tomes aux éditions Kurokawa. On va s'écouter tout de suite le troisième ending de l'animé Naruto Shippuden. C'est Kimi Monogatari de Little by Little et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine. Donc c'était Little by Little avec la chanson Kimi Monogatari qui est servie de troisième ending pour l'anime Naruto Shippuden. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on a eu une sortie aujourd'hui, lundi 13 juillet, chez Boys of IDP avec le volume 1 du Libertin et du Piège de l'amour. Et les dernières sorties, ça sera pour jeudi 16 juillet. Alors chez H2T, on aura le volume 2 de Ashen Memories, le volume 3 de Deep Scar. Aux éditions Omake Books, ça sera le volume 2 de Assistant Assassin. Aux éditions Akata, on aura le volume 2 de Autour d'elle, le volume 3 de En proie au silence et les volumes 1 et 2 de Perfect World. Donc il faut une petite promo à partir du 16, si je dis pas de bêtises, voilà, le jour de la sortie. Ou si vous achetez le tome 1 de Perfect World, le tome 2 sera gratuit avec. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore commencé la série, c'est le moment. Ensuite, aux éditions Nomidomi, on aura le volume 5 de Bizarre Axel et le volume 6 de Chat malgré moi. Aux éditions Hot Manga, on aura le volume 1 de Chérie, tu me rends folle, le volume 1 de Love, Juice, Merking, le volume 1 de Sweet Days et le volume 1 de Yokoshima Musume. Aux éditions Panini, on aura le volume 9 de Demon Slayer et aux éditions Pika, on aura le volume 4 de Everdark, le volume 7 de Grand Blue Fantasy qui sera le dernier tome de la série, le volume 1 de Journal de ma solitude, le volume 10 de La princesse et la bête, le volume 6 de Romeo versus Juliette et le volume 7 de Sister and Vampire. La dernière sortie de la semaine, ça sera aux éditions Paquet avec le volume 1 de Opération dans le Pacifique. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, Gekiju de Lix, et on viendra juste après pour parler du manga Derrière le ciel gris.
Gekiju no amega, yabu koto wa naku, zawa no kikachi kesu yo ni, uchizukeru kara, mukasanari wa shinai, kubi saki kara, ai wa.
Donc c'était Lix avec la chanson Gekijo. On passe maintenant à la présentation du manga Derrière le ciel gris, du titre original Aozora to Kumorizora. Alors c'est un seinen de genre drame, psychologique, romance, vie scolaire, surnaturel, qui a été écrit par Miyaki Sugaru, dessiné par Lundro et prépublié dans le Pixiv. La version japonaise est parue en 2016 aux éditions Kadokawa Shoten avec un total de 2 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue le 5 février 2020 aux éditions Delcourt Tonkam dans leur toute nouvelle collection Moonlight avec pour le moment un tome de sortie. Donc vous pourrez retrouver Derrière le ciel gris dans le commerce pour un prix de 7,99€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus et il n'existe pas d'adaptation en animé. Un manga subtil et poétique qui explore avec finesse la fragilité des êtres humains lorsqu'ils sont dos au mur. Donc le résumé de cette série, Kumorizora, un adolescent qui a le pouvoir de conduire les gens au suicide sans laisser de traces. Il élimine les cibles qui lui sont désignées jusqu'au jour où il doit faire disparaître une fragile et énigmatique jeune fille appelée Aozora. Mais comment faire du mal à une personne qui le renvoie à ses propres blessures et dont il pourrait bien tomber amoureux? Comment tournera cette rencontre particulièrement cruelle qui pourrait bien basculer vers un surprenant dénouement? Voilà, si vous voulez le savoir, vous n'avez plus qu'à aller lire Derrière le ciel gris, paru aux éditions Delcourt Tonkam. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, complètement une autre ambiance. C'est le deuxième opening de l'anime Katekyo Hitman Reborn, c'est Boys and Girls de LMC, et on reviendra juste après pour la présentation du manga Infection.
あの星に手が届くと本気で思っていた。誰もが急ぎ足
Donc c'était LMC avec la chanson Boys and Girls qui a servi de deuxième opening pour l'animé Katekyo Hitman Reborn. On passe maintenant à la présentation du manga Infection. Donc c'est un seinen de genre... action, drame, ecchi, horreur, romance, vie scolaire qui a été écrit par Oikawa Toru et prépublié dans le Shukan Shonen Magazine. La version japonaise est parue en 2015 aux éditions Kodansha avec un total de 19 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue le 3 janvier 2018 aux éditions Delcourt Onkam dans leur collection Borderline avec pour le moment 9 tomes de sortie. Donc vous pourrez retrouver Infection dans le commerce pour un prix de 7,99€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus. Il n'existe pas d'adaptation en animé et la série est pour public averti. Une infection s'est répandue dans la ville et transforme les gens en morts-vivants. Six adolescents en plein flirt voient leur relation bouleversée, maintenant qu'ils doivent lutter pour leur survie et s'adapter à ce nouveau monde. Alors, un groupe de lycéens joue à s'enfermer en couple dans la réserve du gymnase. Quand le tour d'Haruki et Kirara se termine, personne ne vient les délivrer. Inquiets, ils se libèrent et découvrent l'horreur. Les morts reviennent à la vie et mordent les vivants pour les infecter. C'est pour éviter cette pandémie. Le gouvernement isole la ville de l'extérieur. Haruki et un groupe d'élèves vont donc tout tenter pour s'en sortir. Donc à savoir, Oikawa Toru est un jeune auteur qui a fait ses débuts en 2012 avec le manga surnaturel Shinsekai Yori, Infection, et sa quatrième série. Voilà, donc si vous aimez bien les zombies avec les petits vers qui sont partout dans les yeux, c'est dégoûtant. Mais voilà, c'est une série faite pour vous. Infection à retrouver donc aux éditions Delcourt Tonkam. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Mong Xiu Xuan de Luan Shou, et on viendra juste après pour la chronique du volume 5 de Innocent.
Chiều thăm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu trăng, lòng tha thiết. Trả lời lòng em mấy câu, tình duyên với anh trong kiếp nào, xuân còn thắm tươi em còn mong chờ, ai ăn kẹo tan ngày mơ. Chiều thăm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu trăng, lòng tha thiết vương theo tiếng đàn. Trong mộng đẹp ngày xuân, ngây thơ sáng huyền đến trong mơ, lòng em bớt sầu, mộng vàng phút tan trả lời lòng em mấy câu. Tình duyên với anh trong kiếp nào, xuân còn thắm tươi, em còn mong chờ ai ăn kẹo tan ngày mơ. Xuân còn thắm tươi, em còn mong chờ ai ăn kẹo tan ngày mơ.
Donc c'était Luan Shou avec la chanson Meng Xue Xuan. On passe maintenant à la chronique du volume 5 de Innocent. Je rappelle que c'est un seinen de genre drame historique, psychologique, tragique qui a été écrit par Sakamoto Shinichi et prépublié dans le Shukan Young Jump. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 9 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Delcourt Tonkam avec également 9 tomes. Ce volume 5 est sorti le 2 décembre 2015 au prix de 7,99€, et je rappelle que la série est pour public averti à cause de la nudité modérée et de la violence. Beaucoup de violence. Le résumé de ce tome, sur le conseil de sa sœur, Charles-Henri est parvenu à mener à bien l'exécution de Damien, mais la vieille Marthe est furieuse contre Marie-Joseph. Jamais encore aucune femme n'avait eu l'audace de fouler l'échafaud. Pour punir l'impudente, elle lui applique au fer rouge, sur la poitrine, les armoiries de la famille Sanson. Charles-Henri intervient alors pour prendre la défense de sa cadette. Frères et sœurs font désormais marche commune et c'est en direction de Versailles que leurs pas les mèneront. Au front, les commandements militaires de Thomas Arthur de Griffin ne semblent guère porter leurs fruits. La réponse du roi n'en sera qu'adaptée, jugement est rendu, il fera l'objet d'une décollation par les mains de l'exécuteur des hautes œuvres. Décollation, c'est pour dire décapitation, c'est plus joli de dire comme ça. Enfin, c'est qu'entre-temps, Marie-Joseph Sanson a bien grandi. Elle n'est certes haute que de 11 années, mais c'est elle qui le retrouve sur l'échafaud, le glaive lugubre à la main. Et d'ailleurs, elle semble avoir certaines choses personnelles à régler avec le condamné. Malheureusement, l'exécution tourne mal et c'est peu dire. L'eau a coulé sous les ponts. Anne-Marthe et Jean-Baptiste ont quitté la demeure familiale. Charles-Henri est désormais le seul et unique monsieur de Paris, lequel semble porter le plus grand soin sur sa jeune sœur cadette. Si depuis les débuts de la fresque d'Innocent, l'auteur s'était prêté à un romantisme parfois légèrement revêtu d'érotisme, il s'agira ici, et pour la première fois, de l'intégration manifeste de la thématique de la sexualité. Donc celle-ci constituera la colonne vertébrale de ce tome. Par ce parti pris du prisme souverain de la sexualité, Sakamoto procède à deux choses. D'une part, l'évolution de trois des personnages de premier plan, et d'autre part, l'établissement de diverses facettes des pratiques de cette époque. Donc d'abord, donc, en ce qui concerne l'évolution des personnages, l'auteur s'y affaire systématiquement par une étape portée sur la chose. Marie-Joseph subissant la violence sexuelle ultime qui se transformera en la bête esquissée par la suite. Marie-Jeanne Bécu, future madame de Paris, considérant être dotée d'un corps endiablé qui paraît s'élancer dans une perspective de vie qui lui semble cohérente. Et Charles-Henri perdant sa virginité qui se sentira bouleversé au plus profond de lui-même. L'auteur dépeint également certains aspects des conditions d'autrefois. À travers le supplice subi par Marie-Joseph, il sera perçu les calculs de caste, plus ou moins bourgeois, voire noble, de cette époque, afin d'améliorer, maintenir ou augmenter son rang dans la société. Sauf que cela se fera ici contre toute volonté et dans l'horreur. Ensuite, par le parcours assez juste dans sa retranscription, bien que très succincte, de Marie-Jeanne Bécu, il est mis en exergue ce que pouvait être le périple d'une roturière afin de survivre décemment. Et enfin, par Charles-Henri, il est porté un regard sur les déformations que peuvent opérer certains enseignements chrétiens sur la conscience d'un jeune homme quant à la perception des réalités. Sans doute davantage qu'à l'accoutumée, l'auteur a usé de l'uchronie. Donc, cependant, à certains endroits, cela paraîtra moins habile que ce à quoi il a pu précédemment nous habituer, notamment Thomas Arthur, personnage historique de haute importance, qui fera l'objet ici d'une telle modification en substance que Sakamoto aura été obligé d'en changer le nom. Lali deviendra donc Griffin. Or, il aurait sans doute été davantage intéressant d'être un peu plus respectueux des faits historiques, lesquels auraient pu permettre d'intégrer la philosophie des Lumières avec Voltaire, plutôt que de faire le raccourci intellectuel presque caricatural de la perversité sexuelle. Pour le reste, nombre de personnages historiques font ici leur entrée, et à travers quelques anecdotes véritables, comme le jeune Mozart demandant la main à Marie-Antoinette d'Autriche pendant leur enfance, des détails très appréciables. Enfin, ce tome, c'est aussi celui de l'entrée en scène parallèle de deux figures féminines éduquées dans des univers diamétralement opposés. Marie-Antoinette, bercée par la musique et les belles paroles, Marie-Joseph, baignée dans la violence et le sang, le contraste étant plutôt exubérant. Pour parler de la structure du tome, l'auteur n'est en général jamais aussi bon que lorsqu'il ralentit la narration, afin de développer avec soin et en détail les turpitudes de ses personnages. Mais ici, beaucoup de choses prennent racine, bien des personnages font leur entrée, quantité d'événements s'enchaînent. Cette narration accélérée ne permet donc pas de développer le récit en profondeur et semble par moments affaiblir toute la solidité de la charpente à laquelle le lectorat aurait pu être sensible lors du précédent tome. Un volume donc qui, en dépit de qualités fort nombreuses, s'il ne parvient pas à égaler le niveau de parachèvement de ses prédécesseurs, ne manquera pas de saisir l'attention de son lecteur et de poser nombre de bases pour la suite de l'épopée. On a donc ici un tome davantage grand public et moins insolent que certains précédents. Voilà, donc Innocent à retrouver aux éditions Delcourt-Tonkam. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Ao no Yume de Lolita 23Q. Et on viendra juste après pour la news musicale. C'était Lolita Nissan-Q avec la chanson Aon Yume. On va maintenant finir l'émission avec une petite news musicale. Siso, le duo Danison ayant lancé la carrière de Yuki Kajiura et Chiaki Ishikawa, vient de sortir une nouvelle compilation. Donc Siso Sin propose sur 3 CD toutes les chansons sorties depuis le début de la carrière du groupe en 1993, lorsqu'il était encore un trio avec la bassiste Yukiko Nishioka. En décembre dernier, Kajiura et Ishikawa s'étaient réunis pour leur premier concert depuis 2003. Siso Live Dreamfield 2019 s'est tenu au Tokyo International Forum. Voilà. Donc du coup, pour finir l'émission, on va s'écouter le quatrième ending de l'animé Mobile Suit Gundam Seed Destiny. Donc c'est Kimiwa Boku ni Niteiru de Siso. Et voilà, c'est tout. Donc du coup, demain matin, c'est férié, donc pas d'émission. Mais voilà, vous pouvez quand même écouter la radio parce que c'est super. Moi, vous pourrez me retrouver, je sais pas quand, je peux pas vous dire, peut-être vendredi, peut-être lundi prochain, peut-être dans la semaine d'après, à voir. Donc, peut-être vendredi de 18h30 à 19h pour l'émission Cordel Mangui, sinon ça sera peut-être lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!